Je vous remercie, comme je remercie les professeurs Fumaroli et Compagnon d'avoir bien voulu m'inviter dans ce beau colloque et dans cette belle salle. Le 4 janvier 1922, le Conseil de la sécurité de la Société des Nations décide la création de la Commission internationale de coopération intellectuelle, le CICI, et en nomme les 12 membres. Cette création, bien évidemment, ne surgit pas de rien. Elle a été suggérée dès 1921 à la conférence de la paix tenue à Paris entre janvier et juin 19 et proposée au Conseil de la SDN par Léon Bourgeois le 2 septembre 21 dans l'idée d'étudier les questions internationales de coopération intellectuelle et d'éducation afin d'aider les échanges entre les peuples. Bergson fait partie des 12 membres nommés, à côté d'autres personnalités prestigieuses, comme Marie Curie ou Albert Einstein. Réunis pour la première fois à Genève le 1er avril 1922, le CICI choisit à l'unanimité Bergson pour son président. Qui est Bergson en 1922 ? Je crois qu'il faut faire un petit retour en arrière. Bergson est un professeur honoraire au Collège de France, où il a fait sa dernière leçon juste avant le déclenchement de la guerre. Il est membre de l'Académie française, membre plus ancien de l'Académie des sciences morales et politiques et, d'autre part, membre associé de plusieurs académies étrangères comme celle de Belgique, de Grande-Bretagne, d'Écosse, d'Italie, de Suède et j'en passe. C'est dire que c'est en France comme hors de France une gloire. Cette gloire, il l'a acquise dans les années qui ont précédé la Grande Guerre. Elle s'est appuyée sur quelques livres, pas beaucoup, 3 ou 4, et sur son enseignement au Collège de France à partir de 1900. Pour cette génération, c'est-à-dire en gros pour tous ceux qui ont eu 20 ans entre 1900 et 1914, Bergson a représenté un ensemble de valeurs qui ont conflué avec le courant des avant-gardes esthétiques et politiques, mais aussi quelques paradoxes qu'il y ait là, avec les mouvements de contestation du monde nouveau et avec l'appel à une refondation politico-intellectuelle des sociétés modernes, laminée, disent-ils, par la grande vague démocratique. En somme, Bergson a réussi cette chose étonnante d'attirer à lui à la fois l'aile conservatrice et l'aile révolutionnaire de la jeunesse. La guerre a confirmé, conforté son lien plutôt avec la première qu'avec la seconde, plutôt avec l'aile conservatrice que l'aile révolutionnaire de la jeunesse. Bergson a pris très tôt et publiquement parti, le parti de la guerre, au titre de la défense de la civilisation menacée par la barbarie allemande. Il a incarné donc au plus haut sommet l'alliance de l'intelligence et de la politique de la patrie. Comme tant d'autres en France et hors de France, et de l'autre côté du Rhin, loin de s'abstenir, comme il l'avait toujours fait jusque-là, il s'est engagé comme il l'a pu et autant qu'il l'a pu. Comme vous savez, cet engagement aura été jusqu'à lui faire accepter plusieurs missions, dont une certainement capitale, au début de 1917, puisqu'elle sera suivie de la décision du président Wilson d'entraîner les États-Unis dans la guerre. C'est du reste de cette époque et de ses entrevues avec le président Wilson et son conseiller, le colonel House, que date la conviction de Bergson qu'une Ligue des Nations, comme il dit, serait indispensable une fois la paix revenue. L'engagement de Bergson pendant la guerre a donc donné à son image dans l'opinion publique un éclat supplémentaire. L'illustre philosophe est descendu de sa chaire et il est venu au secours de la patrie en danger. Beaucoup lui en sont reconnaissants, mais d'autres, moins convaincus des vertus de la guerre, le lui reprocheront toujours. Pour eux, Bergson sera à tout jamais l'auteur de bien contestables discours de guerre. André Breton, par exemple, et ses amis surréalistes seront de cela. Désormais, Bergson est du côté des notables, du côté des gens d'importance et plus du tout du côté de la jeunesse d'avant-garde. Le Bergson de 1922, celui qui va prendre la présidence du CICI, n'est plus tout à fait le Bergson de 1914, celui qui enthousiasmait Marinetti et Sorel. C'est un homme déjà en route vers le prix Nobel, lequel lui sera décerné en 1928. Et d'ailleurs, déjà en 1919, 3 ans donc avant la prise de fonction au sein de la SDN, il a été nommé au Conseil supérieur de l'instruction publique, où il a pris la défense particulièrement ardente des études classiques et plaidé en faveur de la constitution d'une double élite, celle de la pensée et celle de l'action, les deux devant surtout demeurer bien distinctes. Voici donc l'homme qui, en 1922, prend la présidence de cette commission dévolue à la chose intellectuelle au sein de l'ASDN. Lui, dont la vie est jusque-là, a été jusque-là réglée au millimètre, lui qui travaille depuis avant la guerre à une philosophie morale et religieuse, voit survenir dans son existence méticuleuse ce qu'il appellera lui-même un bolide, c'est-à-dire un événement qui va venir bouleverser son emploi du temps et différer largement l'écriture de ce qui sera plus tard son livre « Les deux sources de la morale et de la religion ». Alors, je voudrais ici me poser la question, pourquoi Bergson accepte-t-il cette charge et quel sens est là à ses yeux? Et c'est ici, évidemment, que le contexte de la tourmente évoquée par l'intitulé de ce colloque doit intervenir. Sur les motivations de Bergson, nous disposons heureusement d'un texte très précieux, l'entretien qu'il a accordé au jeune romancier Albert Hadès le 10 mars 1918. Bergson et son interlocuteur parlent donc de la guerre et de Wilson. Bergson se montre convaincu que la guerre ne peut pas avoir été nulle moralement, c'est sa formule. Hadès en doute un peu et il essaye alors de tirer la conclusion de cette belle espérance bergsonienne. Et il invite le philosophe à descendre à nouveau dans l'arène. Il lui dit « Vous devriez agir ». À ce point du dialogue, on s'attendrait à ce que Bergson rétorque, horrifié, « Il n'en est pas question, 4 années de guerre m'ont suffisamment détourné de mes chères études ». Et ce n'est pourtant pas cela que répond Bergson, mais il répond la chose suivante, « Vous croyez que ce serait efficace ?» Et aussitôt, il enchaîne sur une interrogation sur les moyens. Il s'interroge comment agir, par des livres, par des articles dans des journaux à grand tirage, par des conférences. Là, le professeur, l'habitué des discussions argumentées entre collègues, reprend momentanément la main et il dit « Une telle campagne supposerait tant d'explications préliminaires. » Et Hadès l'interrompt, dit « Mais non, 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 elles ne sont pas nécessaires pour les masses. » Et Bergson répond « Je sais bien. » Et alors surgit dans sa bouche une seconde objection, bien plus durable. « En voulant faire du bien, se demande-t-il, est-ce qu'on ne risque pas de faire aussi du mal ? Quel bien, quel mal ? » Le bien, c'est évidemment l'idéal wilsonien, c'est-à-dire la régénération morale des nations après le conflit. Mais le mal, c'est le possible bouleversement des esprits, l'ébranlement de leurs forces avant même que la guerre ne soit achevée. N'oublions pas, nous sommes au moment où a lieu l'entretien, nous sommes en mars 18 et la victoire des Alliés n'est nullement acquise. Il faut encore fabriquer des canons et penser à se venger, dit Bergson. Plus tard, nous verrons à soigner les esprits, ajoute-t-il. Hadès ne s'estime pas tout à fait vaincu. Il revient donc à la charge et il dit ceci. Il y a autre chose à inculquer au peuple, c'est de se sentir, après la guerre, à une hauteur qu'on n'avait pas atteinte avant la guerre. Bien entendu, Bergson, sur ce point, est d'accord, puisque c'est la conviction même de Wilson et qu'il la partage complètement. Alors, il ne discute pas de cette conviction et il ajoute, il dit, indépendamment de cela, et puis la phrase, il interrompt sa phrase. Il s'arrête et il ajoute, vous voyez, il y a des questions telles que la société des nations. Puis encore, point de suspension. Visiblement, il ne prononce pas ce mot sans une certaine appréhension, car il ajoute aussitôt, est-il possible d'en parler sans danger ? Ces questions impliquent des problèmes d'une délicatesse, d'une complexité, de nature à vous empêcher d'en parler. Et de fait, ils n'en parleront pas davantage. Mais avant de clore tout à fait le débat, Hadès et Bergson échangent encore deux répliques qui sont pour moi aujourd'hui bien précieuses. Car Hadès, qui admet les difficultés que pointe Bergson, regrette que le philosophe ait l'air de les trouver insurmontables. Parce que, dit-il, je ne vois pas d'autre que vous pour faire la campagne. Et Bergson de répondre alors, c'est qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'hommes qui aient autant que moi l'amour de la vie. Alors, le propos est à la fois décevant, si l'on veut, par une certaine banalité, mais il est suggestif aussi. Bergson a écrit des discours de guerre, il a milité pour l'entrée des États-Unis dans le conflit, mais, évidemment, et qui en douterait, il n'aime ni la guerre ni les canons. Il aime la civilisation, et c'est bien parce qu'il l'aime et qu'il l'a cru menacée par l'Allemagne qu'il a joué le rôle qui a été le sien. Et c'est exactement pour la même raison qu'il entend la proposition insistante de son jeune interlocuteur, comme il entendra celle qui lui sera faite en 1922 de présider le CIC. Autrement dit, l'homme qui accepte en 1922 la fonction au sein de la SDN est exactement celui que la grande tourmente de 14-18 a lancé dans l'histoire et qui a été convaincu par Wilson et les Wilsoniens que la guerre ne serait pas gagnée tant qu'on n'aurait pas soigné les esprits. « Pourrons-nous jamais songer à autre chose ?» écrivait-il en avril 1915, « à autre chose qu'au cataclysme en cours, dont il savait qu'il allait bouleverser définitivement la configuration des peuples d'Europe. Il n'y a pas de doute que 1914 marque aux yeux de Bergson une césure irrémédiable, irréversible dans l'histoire comme dans sa propre vie. Au CICI, comme à la SDN, le philosophe va donc confier une mission d'ordre moral. C'est ce qu'il appelle le progrès moral qui l'intéresse et qui va orienter son action pendant les 3 ans où il va demeurer à la tête de cette institution avant de la quitter en 25, non pas par lassitude, mais pour de réelles raisons de santé. Il l'a dit très clairement le 5 août 22 dans son discours de clôture de la première session, la SDN poursuit un but moral, c'est-à-dire la réalisation d'un idéal de fraternité et de solidarité entre les hommes. Or, ajoute-t-il, si ce but peut être atteint quelque part, c'est d'abord dans les hautes sphères intellectuelles. Agir au sein du CICI, c'est donc pour Bergson faire porter l'effort exactement là où il peut aboutir, étant entendu que, depuis les hautes sphères où un accord est possible, l'entente peut descendre progressivement dans les nations. Telle est sa conviction. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'important et sur quoi il faut insister. La dimension morale de l'engagement de Bergson en 1922 rejoint ce qui a été dans ses discours de guerre une préoccupation de la première heure. Relisons, si vous voulez bien, le fameux discours qu'il prononce le 4 novembre 1914 et qui s'intitule « La force qui s'use et celle qui ne s'use pas ». Le discours est tout entier construit sur l'opposition de la force matérielle, supposée être celle de l'Allemagne, et de la force morale, celle de la France. Celle-ci, bien entendu, la force morale, la seule qui vaille, est indexée sur un idéal supérieur aux individus comme aux nations, un idéal de justice et de liberté. Parce que cet idéal est incorruptible, la force qui puise en lui est également inusable. Cet idéal, est un principe de vie et de renouvellement, dit en 1914 le philosophe de l'évolution créatrice. Autant dire que, en s'inspirant de cet idéal, la force morale est certaine de triompher, car elle est capable de se refaire sans cesse. « Soyons sans crainte, disait-il, ceci tuera cela. La force qui va chercher au-dessus d'elle son énergie triomphera de celle qui ne se nourrit que de sa propre brutalité. » En janvier 1915, il reprendra cette même idée avec une variation nouvelle. L'énergie morale qui s'alimente à un idéal éternellement vivant se revivifie sans cesse comme une âme qui reconstituerait son corps. Je crois qu'il ne faut pas sous-interpréter ces propos au motif qu'ils s'inscrivent dans une rhétorique de guerre, car ils désignent, ils font signe vers quelques-uns des concepts proprement bergsoniens et au premier chef, celui d'élan vital qui fait le fond de l'évolution créatrice. La force morale de la France n'est rien moins qu'une force en prise directe sur l'élan vital, ce principe qui a traversé la matière depuis l'origine et qui l'a organisée en forme vivante. Assigner donc à la SDN et au CICI un but moral de la part de Bergson, ce n'est pas une concession rhétorique, ce n'est pas un pis-aller, c'est dire que cette institution s'inscrit de plein droit dans l'inspiration qui a été le moteur des Alliés pendant 4 ans, leur raison profonde de ne pas céder devant la barbarie allemande et surtout le principe même de leur victoire. Car si les Alliés l'ont finalement emporté, c'est parce qu'ils disposaient de cette force inusable que procure l'idéal moral. Aussi, la mission dont la SDN investit Bergson revêt-elle à ses yeux une importance que peut-être on mesure mieux maintenant. Dans la tourmente des années d'après-guerre, investir son énergie dans une entreprise dont le but est moral, ce n'est pas, pour Bergson, se contenter de peu, c'est se placer exactement au point où l'action est susceptible d'avoir les effets de plus longue durée. Ce but moral, comment Bergson l'a-t-il défini pendant la durée de sa présidence du CICI ? Il a pensé que pour prévenir les guerres futures, il importait que les peuples sortent de leur isolement et apprennent à connaître ce qu'il appelle leur mentalité respective. Si, par exemple, dans les différentes universités, des professeurs étrangers faisaient des cours relatifs aux intérêts vitaux et à l'esprit public des autres peuples, c'est Bergson qui parle, on ferait un grand pas dans la direction d'une entente possible. Là encore, d'ailleurs, cette idée ne date pas du moment où Bergson la formule. Déjà en mars 19, au cercle de la librairie, Bergson a accueilli des professeurs et des étudiants américains et il a parlé de ce qui, selon lui, fait la mentalité française. Et il a développé l'idée que c'est par une communauté d'idéal moral que l'amitié entre les deux nations passe et que cette armature confère une force de résistance infinie. Vous voyez toujours cette idée de la force qui ne s'use pas. Cette République des lettres, qui est aux yeux de Bergson la SDN et tout particulièrement le CICI, comment convient-il de l'organiser ? Par des échanges de professeurs et d'étudiants, par une mise en équivalence de leurs études et de leurs diplômes, par la constitution d'une bibliothèque nationale, d'une bibliothèque mondiale, pardon, et d'une bibliographie internationale, et d'abord par un diagnostic de l'état actuel de la vie intellectuelle dans les divers pays. C'est là, évidemment, vous vous en doutez, que Bergson va mesurer tout de suite l'immense écart entre l'idéal et le réel, ou encore entre la situation d'avant-guerre et celle de l'après-guerre. Bien des voix autorisées, dit-il, un peu partout en Europe, se font entendre pour nous dire que des dangers certains menacent la civilisation, qu'on peut constater des symptômes de décadence et peut-être même des signes de régression, dit-il dans le rapport du 13 septembre 1922. Bergson et les membres de la commission qu'il préside savent très bien que d'anciennes et glorieuses universités sont prêtes de fermer leurs portes, là encore je cite Bergson, que des laboratoires célèbres sont à court de moyens, Dans quel pays? Eh bien, en Russie en premier lieu, mais aussi dans la plupart des nations issues du traité de Versailles, qui s'étendent de la Baltique à la mer Noire. Enfin, l'Autriche, Vienne en particulier, et aussi la Pologne, sont dans une situation plus qu'alarmante en raison de la détresse économique qui les frappe. Un congrès international des universités permettrait de faire le point, mais les circonstances politiques n'autorisent pas le CICI à l'envisager. Les circonstances politiques, comprenons, ça veut dire que les universités des puissances centrales ne sauraient participer à une telle conférence interuniversitaire. Rappelez-vous, nous sommes en 1922. En octobre et novembre 1918, deux conférences des Académies des sciences interalliées réunies à Londres puis à Paris ont mis hors jeu l'Allemagne et ses alliés en invoquant, je cite, « les crimes sans nom qui vont laisser dans l'histoire des nations coupables une tache que des signatures au bas d'un traité ne sauraient laver ». De ces conférences est résulté en juillet 19 l'International Research Council, qui interdit pour une durée de 12 ans la participation des institutions savantes allemandes, autrichiennes, hongroises et bulgares à la nouvelle organisation internationale. La question de la participation des Allemands au CICI s'est évidemment posée tout de suite. Einstein, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été nommé parmi les premiers, mais d'abord, Einstein a démissionné du CICI par méfiance à l'égard de cette institution soi-disant internationale. Et puis d'autre part, Einstein est l'exemple même du bon Allemand, pacifiste, l'un des rares grands savants allemands à n'avoir pas signé l'appel de 93. Einstein incarne l'Allemagne de Kant et de Goethe plutôt que celle de Hegel et de Bismarck, pour reprendre une opposition que Bergson, avec beaucoup d'autres, ne dédaignait pas. En avril 22, quelques jours après la première réunion du CICI, Einstein avait fait à Paris une tournée dont on a parlé ce matin, d'autant plus médiatisée que c'était la première fois depuis la guerre qu'un Allemand venait en visite officielle à Paris. Bergson avait eu avec lui pendant cette visite un échange scientifique, comme vous savez, et il faut rappeler que c'est aussi au printemps de 1922 que Bergson publie son ouvrage consacré à la relativité, durée et simultanéité. Donc, si le nom d'Einstein ne soulève pas d'objections sérieuses, en revanche, la question des savants allemands, en général, est très loin d'être irénique au sein du CICI. Je n'en veux qu'une preuve. La lettre publiée de le Manchester Guardian du 6 mars 1924 par Gilbert Murray, qui est le vice-président du CICI. Murray dénonce l'esprit anti-allemand de la Commission, l'absence de savants de cette nation en son sein, le refus d'aide aux universités, etc. Sur cette question controversée à l'intérieur même du CICI, Bergson, semble-t-il, est du côté de ceux qui tiennent à une attitude dure. Gonzague de Reynold, qui avait été chargé d'une enquête sur la vie intellectuelle en Allemagne et qui avait fait, dit Bergson, des avances à des savants allemands, se fait taper sur les doigts par lui. La Commission, dit-il, n'avait pas à aller si loin. La France, c'est encore, je cite encore Bergson, la France se trouve en ce moment vis-à-vis de l'Allemagne dans une situation particulière. Un Français faisant partie de la Commission ne peut pas choisir un pareil moment pour lancer, même discrètement, une espèce d'appel. Il faudra attendre 1924-1925 pour que les choses changent, d'une part au sein de l'International Research Council et d'autre part dans la commission, dans la communauté scientifique. Mais la France et la Belgique feront partie des nations qui tiendront le plus farouchement et le plus longuement au boycott. Et on peut penser que Bergson, qui avait accompagné l'effort de guerre par des écrits très anti-allemands, n'était pas parmi les plus empressés à renouer avec ses collègues d'outre-Rhin, Einstein mis à part. Mais encore une fois, Einstein n'était pas un Allemand comme les autres, et donc Einstein, oui, les Allemands, c'est une autre affaire. En dépit des difficultés économiques, organisationnelles, politiques, le CICI, sous la présidence de Bergson, ne resta pas les bras croisés, si je peux dire. Un commencement de réalisation fut donné à ces divers projets d'internationalisation de la vie intellectuelle, sous la forme notamment d'aide aux pays les plus touchés par la crise de l'après-guerre, sous la forme d'un début de mise en place d'une bibliographie internationale et sous la forme de la création d'un institut international de coopération intellectuelle basé à Paris, ancêtre direct de l'UNESCO, qui reprendra, par-delà la coupure de la Seconde Guerre mondiale, les intentions qui avaient présidé à la création du CIC. Cette institution a-t-elle été capable de réaliser la grande espérance que Bergson avait mise en elle? Je conclurai sur cette question. Est-ce que quelque chose du but moral que Bergson avait en tête fut atteint? Je ne suis pas sûr que le philosophe se soit fait beaucoup d'illusions à mesure que le temps passait. Deux textes postérieurs à sa présidence sont ici éclairants. Le premier est de 1932, c'est-à-dire juste avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Dans les deux sources de la morale et de la religion, il dit que des bienfaiteurs de l'humanité ont fondé la société des nations, et il se pose la question de savoir s'ils pourront empêcher la guerre. Et il répond, même si cette institution était armée, elle ne pourrait pas lutter avec ce qu'il appelle alors l'instinct profond de guerre que recouvre la civilisation. Vous le voyez, on n'est pas très loin là du Freud, d'au-delà du principe de plaisir. Le second texte est de 1936, 3 ans donc après que l'Allemagne eut quitté la SDN. Bergson ne se fait plus d'illusions, il sait que la partie est perdue. Mais, dit-il dans les entretiens avec Jacques Chevalier, elle aurait pu être gagnée. Si Wilson n'était pas tombé malade, si les États-Unis étaient entrés dans la SDN et les Anglais derrière eux, la force, cette fameuse force qui lui a manqué, aurait été mise au service du droit. Hélas, Wilson a été bientôt terrassé par la maladie, et voici comment Bergson qualifie cette chance manquée, et vous verrez la force des expressions qu'il emploie. Il dit ceci: « Ainsi fut perdue l'occasion unique qui s'était offerte au monde, depuis la prédiction de l'Évangile, de faire passer l'esprit évangélique dans les rapports entre nations. L'humanité se serait élevée à des hauteurs inespérées. Elle est tombée, au contraire, plus bas que jamais. » La désillusion de Bergson est évidemment à la mesure de l'espérance, et vous voyez qu'elle était incroyablement grande. On comprend donc, à la lumière de phrases comme celle-ci, on comprend donc que Bergson ait accepté de se lancer dans l'aventure, et on comprend aussi l'espèce de désespoir qui colore les dernières pages de son dernier livre. L'humanité voudra-t-elle continuer à vivre? Se demande Bergson à la fin des deux sources de la morale et de la religion. Rien n'est moins sûr. Je vous remercie.